Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1. Europe 1. 10h, 11h. Médiapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier, d'abord bon anniversaire.
Oh, bon anniversaire voilà. Olivier.
Et Jean-Luc Arblat, Capucine Patouillée, ah sans oui. qui cette émission n'existerait pas, se joignent à moi pour vous embrasser, mon
de
cher
De gros
Olivier.
Bisous.
Je prends tous les baisers. C'est bien Médiapolis avec Catherine Ney que vous venez d'entendre. Toujours en direct et à distance sauf pour notre réalisateur Jean-Luc Arblat qui est en studio. Et l'émission a été préparée par Capucine Patouillet. Elle est animée en compagnie de Justine Holman. Et avec nous, notre invitée, Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Bonjour Adeline Hazan.
Bonjour Olivier Duhamel, bonjour Catherine Ney.
Bonjour.
Adeline Hazan est contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est une autorité indépendante qui surveille le respect des droits dans les prisons, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les centres de migrants, etc. Adeline Hazan a été avant députée socialiste au Parlement européen. Elle a été maire de Reims, mais elle est tenue par une, dans sa fonction actuelle, l'autorité indépendante, par une obligation de réserve qui ne lui permet pas de porter des jugements partisans, on va dire. Mais comme elle a un regard large, très précis sur les sujets de sa compétence, mais large sur notre pays, sur notre système politique, sur la démocratie telle qu'elle fonctionne ou pas, elle pourra quand même très utilement participer à cette émission qui, comme d'habitude, commence
Si je peux vous interrompre, je pourrais dire que quand on est contrôleur général des lieux de privation de liberté, ben je trouve qu'en ces temps de confinement, son domaine s'est singulièrement élargi.
Absolument. Très juste. Quand loup pour commencer, comme d'habitude.
Édouard Philippe a donc exposé les règles du déconfinement hier. Alors la première information, c'est que la date du 11 mai pourrait être décalée si la situation n'est pas favorable. Bonjour Monsieur le Premier ministre.
Oui, bonjour. Je crois que vous avez compris, le cadre, le cadre est posé. Le déconfinement aura lieu le 11 mai, uniquement si et seulement si les Français se montrent responsables, civiques, prudents et intelligents. Bon. En gros, vous avez compris, le déconfinement n'aura pas lieu le 11 mai.
Alors, on retient votre stratégie en trois actes. Protéger, tester, isoler.
Voilà, c'est un triptyque. Un triptyque assez classique, puisqu'il sera composé de trois points. Voilà, protéger, tester, isoler. Vous l'avez dit.
Oui.
De façon mnémotechnique, c'est le PTI, le petit. Comme
oui,
petit
oui.
virus, mais... Grosse emmerde.
Oh là. Alors, vous avez tenté de rassurer hein, en expliquant cette stratégie.
Voilà, tout à fait. Le virus, vous savez, est arrivé en janvier. Et cinq mois plus tard, bim, action-réaction. Oui, très, très vite, cinq mois plus tard, on a une stratégie. Ça y est. Bon, c'est pas vraiment la nôtre. On a copié sur les pays voisins on a copié sur ceux qui réussissaient. Pas ceux, sur ceux où c'était l'hécatombe. Hein. Oui, on est mauvais, mais on n'est pas con non plus.
C'était donc Canteloup, mercredi 29, c'est-à-dire le lendemain matin du fameux discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Catherine Ney, vous avez suivi ce discours avec votre œil acéré, et quelles conclusions vous avez tirées ?
D'abord qu'il a à résoudre une équation impossible, hein, c'est-à-dire qu'à la fois, comment protéger les Français sans immobiliser la France. Et il l'a dit, maintenir le pays à l'arrêt, c'est courir un risque d'écroulement. Vous voyez, on n'est pas loin des jours heureux promis par Emmanuel Macron. Ce qui veut dire, parce qu'il reçoit des modélisations très effrayantes, des nombres de morts, une deuxième vague, enfin des choses qui font peur, eh bien, il dit que si le 7 mai... s'il a des raisons d'être alarmé, ben le déconfinement du 11 sera un peu plus serré, qu'il faudra attendre le 2 juin. Donc, ce qui veut dire que tout va se faire par étapes. D'ailleurs, je crois que ce soir, le Premier ministre fait une nouvelle conférence de presse avec Olivier Véran pour faire des points successifs. Ça veut dire qu'il est vraiment aux manettes. Vous voyez, c'est lui maintenant qui, il a fait un discours, c'est son moment, alors que le discours a été préparé pendant 7 heures avec le président et que c'est une œuvre commune, mais c'est lui qui apparaît comme étant celui qui va mettre en œuvre ce déconfinement, mais avec des alliés nouveaux qui sont les maires, parce que ça sera pas, il n'y aura pas de sentence qui tombe de haut, ça sera une myriade de petites solutions selon les départements, vert ou rouge, enfin voilà. Il y a quand même D'accord. une révolution de décentralisation derrière.
Oui,
vous voyez
on va en reparler tout à l'heure. Adeline Hazan, est-ce qu'il y a quelque chose, j'imagine que vous avez suivi le discours vous aussi. Oui.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a manqué, dont vous auriez aimé qu'il parle là et qui n'a pas figuré ?
Alors moi je dirais que deux choses ont manqué. D'abord, je trouve qu'il ne s'est pas assez exprimé sur ce qui se passera au moment du déconfinement dans les services publics, hormis bien sûr tout ce qui touche à l'éducation. Sur par exemple la justice, qui est évidemment un sujet qui m'est cher, finalement peu de choses ont été dites, alors que les juridictions ne savent absolument pas comment elles vont fonctionner, avec ou sans masque, avec ou sans toutes les audiences qui vont repartir. Et ce qui a été montré par cette crise, c'est la grande pauvreté de l'organisation de la justice. En gros, les magistrats ont pu travailler chez eux, mais les greffiers n'ont pas pu notifier tous les jugements qui ont été faits, tellement le système informatique est ancien et obsolète. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point sur lequel je voulais insister davantage encore, c'est que aujourd'hui même est proposé au Conseil, est débattu en Conseil des ministres un projet qui va de toute évidence prolonger l'urgence sanitaire pendant 2 mois. Et dans ce projet, semble-t-il, il y a des dispositions qui sont justement extrêmement restrictives des libertés, dont il n'a été absolument pas fait état. Je m'explique. On parle, même si ça va peut-être bouger ce matin, on a parlé quand même ces jours-ci, et une des moutures du projet a été diffusée. On a parlé de la possibilité par le préfet de mettre en quarantaine complètement et de placer à l'isolement, c'est-à-dire de priver totalement de liberté un certain nombre de personnes qui ne respecteraient pas, alors qu'elles sont atteintes du Covid+, qui ne respecteraient pas les consignes sanitaires.
Oui, mais et alors, ça, justement, c'est quand même quelque chose.
Ça vous choque ? Ça vous choque ?
C'est-à-dire que je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, parce que là on est très au-delà, par exemple, de l'assignation à résidence qui avait été prévue après les attentats de 2015 dans la loi d'urgence, où les personnes étaient assignées à résidence seulement une douzaine d'heures. Là il s'agirait, en fait, hein, si on comprend bien les choses, il s'agirait d'enfermer purement et simplement les personnes par une décision du préfet, avec une possibilité d'intervention.
Mais c'est possible, mais je pense qu'il faut que ce soit...
Si vous permettez, je vous pose la même objection que celle que vient de formuler Catherine. Catherine Ney, c'est la quadrature du cercle. Si on décide que les personnes qui sont contaminées doivent être à l'écart pour ne pas en contaminer d'autres, ce qui semble quand même absolument indispensable, et qu'on leur propose soit de rester chez eux, soit d'aller dans un hôtel, comment on fait pour faire respecter la mesure ? Vous vous dites que le préfet ne peut pas exiger que la mesure soit respectée.
Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, je dis que c'est quand même quelque chose de très sensible, de très grave, et que j'espère que si jamais ça devait être le cas, ce qui n'est pas certain, parce qu'il y a eu beaucoup, même dans la majorité, de récriminations, il faudrait vraiment que ce soit assorti de garanties extrêmement importantes, et notamment qu'un juge des libertés et de la détention, puisqu'il s'agit vraiment là d'une privation de liberté, puisse être saisi immédiatement.
D'accord. Et notamment, écoutez, par exemple, au bout de 48 heures, on va demander à un citoyen lambda demain que s'il a les premiers signes de la maladie, on lui demande soit de se mettre en quarantaine chez lui, soit d'aller dans un lieu particulier où il sera mis en quarantaine. Ce n'est pas une privation de liberté, c'est une protection et de sa famille et de son entourage. Mais c'est la même chose pour ceux auxquels vous prêtez un manque de liberté. C'est à la fois, on les protège eux, on les soigne éventuellement. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est une mesure qu'il faut saluer. Je veux dire, en plus, ils ne vont pas être enfermés pendant une éternité.
Ils vont être mis en quarantaine.
Je pense que vous avez raison de poser la question.
Bah.
Moi, je dis heureusement, parce que imaginez l'inverse, qu'on sache qu'ils sont malades et on les laisse dans la nature et qu'ils peuvent être des bombes qui circulent auprès de la population. Ça, je veux dire, c'est le devoir des préfets, c'est de faire quelque chose.
Oui, bien sûr, mais je dis que ce serait la première fois, puisque même pendant l'état d'urgence après les attentats, on n'est pas allé jusque-là. Ce serait la première fois qu'une mesure aussi restrictive.
C'était pas le même cas de figure. Les attentats avaient eu lieu.
Non, bien sûr.
Parce que là maintenant, c'est une épidémie dont on ne connaît ni l'ampleur ni la durée. Vous pouvez pas comparer.
Je dis simplement, Catherine Ney, que si cette mesure devait être prise, il faudrait vraiment qu'elle soit entourée de garanties très importantes et notamment qu'un juge judiciaire puisse statuer très vite et examiner la situation. C'est une nouvelle mesure de privation de liberté.
Je vais essayer de vous mettre d'accord.
Qui s'inscrirait dans l'ordre.
Je vais essayer de vous mettre d'accord, si vous permettez.
Je dis que c'est un sujet extrêmement sensible. C'est ça que je veux dire. Et je trouve un petit peu, puisque vous me demandez s'il y a des manques, je trouve un petit peu étonnant que ce sujet, qui est quand même un sujet extrêmement sensible au niveau des libertés individuelles, n'ait absolument pas été évoqué par le Premier ministre dans son discours.
Je crois que vous êtes dans une fonction plus sensible que d'autres qui trouvent qu'au contraire, que c'est une mesure de salubrité publique.
J'essaye de vous mettre d'accord.
Bien sûr,
avec
mais
une
il
solution,
faut, il faut des
si
garanties.
Vous permettez, si vous permettez, parce que là, de toute façon, il faut faire une petite pause. Juste avant cette petite pause, le débat est animé, c'est formidable. Peut-être qu'une solution serait de mettre des amendes, comme on l'a fait pour les personnes qui ne respectaient pas les autorisations de sortie.
Bien sûr, ça pourrait tout à fait.
Les gens auxquels vous voulez donner des amendes seraient insolvables.
Catherine, vous ne m'aidez pas, là, j'essayais de trouver un compromis. Allez, de toute façon, on se retrouve dans 2 minutes. Même pas.
Olivier Duhamel et Catherine Ney, même de chez vous, vous continuez à analyser le monde des médias et de la politique dans Mediapolis. Ce samedi, vous êtes avec Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Et nous allons maintenant juste écouter, avant de commenter, les réactions des deux principales forces de l'opposition. Et d'abord le président de la France Insoumise, dans sa réponse au Premier ministre, mardi.
Nous n'allons pas voter ce qui nous est proposé. Non en raison de votre personne, monsieur le Premier ministre, ni même de l'idée que nous nous faisons de votre action. Nous sommes certains que vous faites pour le mieux. Mais nous ne partageons ni vos diagnostics, ni le système d'action que vous avez choisi.
C'était donc très doux par rapport à Édouard Philippe, mais dans la suite du discours, pour mieux cogner le président de la République. De son côté, le chef du groupe Les Républicains à l'Assemblée, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Daniel Abad y est allé lui aussi de ses critiques ce même mardi 28 avril.
Pourquoi ne pas avoir laissé un délai d'examen de 24 heures de votre plan au Parlement? Pourquoi une telle décision unilatérale? Nous déplorons cette crispation coupable et nous ne comprenons pas cet entêtement qui aura un coût politique majeur, celui de braquer les oppositions à un moment où nous avons besoin de rassemblement et de sérénité. Il est d'ailleurs quelque peu curieux que le président de la République appelle à l'unité nationale et que dans le même temps, le Premier ministre s'assoit sur le Parlement et la démocratie.
Damien Hamad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Alors Catherine Ney, j'ai écouté votre chronique, votre édito ce matin vers 8h40 je crois, sur Europe. Et vous évoquiez le fait qu'il y ait sur cette histoire du délai de 24 heures supplémentaires à l'Assemblée nationale, il y aurait eu désaccord entre le président et le Premier ministre.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé, ça a fait le buzz. Et le président a envoyé des SMS, enfin, à des journalistes pour le leur dire. C'est-à-dire que la question s'est posée, faut-il voter tout de suite après le débat alors que les oppositions demandaient un délai de réflexion? Et là, je crois que, on voit bien qu'aujourd'hui, le moment, c'est pas l'Assemblée nationale. Le moment aujourd'hui, c'est à l'exécutif, le président et ceux qui sont sur le terrain qui organisent le confinement. Donc, si on donnait un délai, alors c'est ce que disait le président Ferrand et même le Premier ministre, eh bien les oppositions allaient sur toutes les chaînes d'information et ça allait créer un climat de défiance qui aurait pu être préjudiciable au vote. Donc il fallait il fait un discours, il fait voter sa majorité, il fallait qu'il rassemble sa majorité. Et d'ailleurs, bon, alors c'est vrai qu'il y a eu 7 abstentions chez Les En Marche, mais une opposition, on est loin des frondeurs du temps de François Hollande, si vous voulez. Moi, je pense qu'il a eu un succès politique, qu'il l'a au contraire légitimé. C'est un succès d'Emmanuel Macron. Il y a 11 républicains qui ont voté pour lui. Les socialistes même ont été divisés. Sur les 30, il y en a 20 qui sont votés contre et 10 qui se sont abstenus, vous voyez.
Succès donc, de Macron ou succès d'Édouard Philippe?
Non, pardon, succès d'Édouard Philippe, excusez-moi.
Ah, ça m'étonnait aussi.
Oui, non, 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 mais c'est, non, mais il se trouve que c'est,
non, mais
c'était
vous avez
lui
raison,
qui était aux manettes. C'était un succès d'Édouard Philippe. Et donc, il apparaît aujourd'hui comme le tuteur qui va mener la bataille, qui va organiser les choses. Ça peut lui retomber sur le nez plus tard. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est le moment Philippe.
Alors, ce qui m'étonne, moi, me surprend toujours un peu sur le plan de l'analyse
médiapolitique. Oui, pardon, et j'ai dit qu'au contraire, le président était pour donner un délai aux oppositions. Voilà, pardon.
Mais ce que je trouve fascinant, c'est l'importance qu'a prise dans les infos, dans la presse, dans les médias en général, cette histoire de délai de 24 heures ou pas délai de 24 heures, qui est quand même une question relativement secondaire. Bah, d'autre part, à chaque précédent dans l'utilisation de l'article 51, il n'y a jamais eu de délai de 24 heures supplémentaire, donc il pouvait dire on fait juste comme on a toujours fait, et on a débattu de ça et de ça et de ça, et du coup du désaccord entre le président, le premier ministre et tout, infiniment moins que par exemple ce dont vous avez débattu, Catherine Ney, tout à l'heure avec Adeline Hazan, qui est un vrai sujet de fond. Comment est-ce qu'on fait pour faire respecter le confinement des gens contaminés? Ça, c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on fait pour garantir à la fois la santé publique et ne pas porter à l'excès atteinte aux libertés? Vrai sujet sur lequel on n'a quasiment pas débattu à l'Assemblée nationale. Et en revanche, on se concentre sur cette histoire de 24 heures.
Ben oui, mais ça c'est à cause, en raison des SMS que le président aurait envoyé à quelques journalistes pour dire qu'il n'était pas d'accord avec son Premier ministre.
Et ça s'est établi, ça.
Ben, c'est établi, en tous les cas.
C'est une question.
Oui. Puisque même, paraît-il, enfin, si j'en crois certaines de mes consoeurs qui ont fait une enquête à l'Élysée, on disait que oui, que ça aurait. Que c'est possible. Vous savez, le président, il adore envoyer des SMS, y compris la nuit. Il téléphone, c'est son mode de fonctionnement. Et il a vu un journaliste dire quelque chose sur une chaîne, et puis il lui a fait dire, mais faites. Voilà. Enfin, bon,
Adeline Hazan, il vous envoie des SMS, le président de la République, ou pas?
Absolument pas. Non, je le rencontre une fois par an pour lui présenter, comme la loi d'ailleurs le m'y oblige, et c'est très bien, mon rapport annuel d'activité. Ouais. Donc nous avons une discussion d'une heure une fois par an, mais évidemment jamais de SMS. Ce serait d'ailleurs assez contraire au principe d'une autorité administrative indépendante.
D'accord. Et pour savoir comment vous fonctionnez, enfin je sais bien, on en parlera tout à l'heure, vous faites des enquêtes, vous allez sur les lieux que vous avez à contrôler, mais dans vos relations avec la société politique, si je puis dire. Est-ce que, par exemple, là, on a entendu Damien Abad, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il leur arrive de s'adresser à vous ou vous à eux pour échanger, pour avancer, pour la réflexion sur tel ou tel sujet? Ou est-ce qu'il n'y a aucun lien?
Oui, très souvent, je suis auditionnée par les commissions des lois ou des affaires sociales de l'Assemblée nationale, du Sénat également. C'est d'ailleurs souvent le cas en ce moment également. Mais pour tous les sujets, disons, qui concernent mon champ de compétence, c'est-à-dire la privation de liberté de personnes par une décision de l'autorité publique, je suis auditionnée pendant la préparation des lois et puis ensuite pour présenter moi aussi mon rapport d'activité tous les ans. Et par ailleurs, il peut y avoir aussi des contacts et des rendez-vous individuels avec un certain nombre de députés, soit en petit groupe, soit même individuellement. Absolument.
Et quand ils vous interpellent dans des commissions à l'Assemblée, donc publiquement en quelque sorte, est-ce qu'il y a une grande différence dans les interpellations qui viennent de la gauche par rapport à celles qui viennent de la droite, ou pas tellement?
Ça dépend. Il est vrai que on peut, sans faire de caricature, on peut quand même constater que, en ce qui concerne la question des droits, de la privation de liberté, il peut y avoir un prisme, disons, de sensibilité plus importante dans les rangs de la gauche, mais aussi souvent dans les rangs de la droite, il y a un certain nombre de députés dont on sait qu'ils sont par principe pour la répression et contre la prévention. Mais voilà.
Alors je vais poser, si vous permettez,
ça n'est pas.
Je vous pose la question de manière un peu plus explicite, peut-être. Est-ce que le clivage entre ceux qui sont plus sécuritaires et ceux qui sont plus droits de l'homme existe au sein de la droite comme au sein de la gauche, ou est-ce que, au contraire, c'est la droite qui est plus sécuritaire et la gauche qui est plus droit de l'homme?
Alors globalement, on peut dire que la droite est plus sécuritaire que la gauche, globalement, mais une fois ceci dit, on peut aussi constater que à droite, il y a un certain nombre de parlementaires qui sont extrêmement sensibles aux droits de l'homme et aux libertés individuelles et qui ne sont parfois pas du tout d'accord avec la ligne de leur groupe politique.
Ça se voit. Et à gauche, il y a des sécuritaires.
Ça se voit aussi avec un certain nombre.
Et à gauche, il y a des plus sécuritaires.
Et à gauche, il y a des plus sécuritaires que d'autres, absolument. Oui, 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 ouais. ça se remarque également.
D'ailleurs, la gauche, on est d'autant plus sécuritaire que l'on arrive au pouvoir, voyez. On n'est plus droit de l'homme, oui, quand on est dans l'opposition. Et puis quand on arrive aux manettes et qu'il faut régler un certain nombre de problèmes, ben là, comme par hasard, on n'est plus sécuritaire, voyez. Tous les ministres de l'Intérieur de gauche.
C'est-à-dire que tout le monde. Tous les parlementaires, comme le gouvernement, et particulièrement dans une période comme celle que nous vivons actuellement, sont quand même, et c'est heureux, très sensibles à l'équilibre entre les mesures de sécurité, et en ce moment de sécurité sanitaire, et aussi le respect des libertés individuelles. Et je pense que aucun parlementaire n'est totalement indifférent à ce que soit maintenu un équilibre quand même entre les deux.
Voilà, c'est gentil, oui. Vous nous faites un peu de langue de bois, là.
Mais oui, donc, non, mais vous voyez, pour les migrants, bon, moi, je trouve que les mettre en confinement, mais c'est à la fois les préserver...
Catherine, on y vient tout à l'heure, là. C'est oui, un non, sujet de tout bon. À l'heure. Bon, on va parler d'accord. spécifiquement des migrants, si vous voulez bien.
Bon,
si je veux symboliser ce qu'on vient de dire, de votre point de vue à vous, contrôleur des lieux de privation de liberté, dans le fond, de votre point de vue à bout, on pourrait dire que quelqu'un comme Patrick Devedjian, feu Patrick Devedjian, hélas, était plutôt à gauche et Manuel Valls plutôt à droite. Mais bon, ça, je sais que vous ne pouvez pas...
On pourrait le dire.
On pourrait le dire. Génial, formidable.
Disons que vous le dites, oui. Et que ça, ce que vous dites ne me choque pas.
Ah ben voilà, c'est parfait. Du coup, on peut faire une minuscule pause et on se retrouve dans une minute trente.
Jusqu'à 11h, c'est Mediapolis sur Europe 1. Ce samedi, Olivier Duhamel et Catherine Ney reçoivent Adeline Azan, contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Alors Catherine Ney a évoqué en début d'émission le fait que maintenant les maires allaient être au premier plan et que dans le fond, c'est l'État central qui a accepté et qui a même demandé cela, ce qui est assez nouveau. Écoutez le commentaire de Christian Jacob, invité de Sonia Mabrouk, jeudi matin sur Europe.
C'est une bonne chose. Bon, il faut aussi maintenant que l'État mette des règles claires, parce qu'il ne faut pas que les élus c'est locaux deviennent les paratonnerres d'un État défaillant. Ben, par exemple, sur les écoles, on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde a du mal à s'y retrouver. On donne la responsabilité au local, très bien, mais tant qu'il n'y a pas de cadre national, c'est compliqué, parce qu'il y a besoin de le borner.
Christian Jacob, le président des Républicains, jeudi matin, invité de Sonia Mabrouk dans la matinale. Catherine, il y a quand même comme une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, on dit que c'est bien que l'État soit moins jacobin, plus girondin, et donne de la marge d'action, de l'autonomie aux maires, mais de l'autre, on vient d'entendre Christian Jacob, ah oui, mais il faut quand même qu'il nous dise précisément ce qu'on doit faire, ce qui est quand même le contraire.
Ben justement, le gouvernement va dire ce qu'il faut faire, puisqu'il y a une circulaire qui est le protocole sanitaire de l'éducation nationale, envoyée au maire, qui fait 63 pages. Donc, ils vont être encadrés, vous voyez. Mais non, mais ce qui est surtout apparu là, pendant cette crise, avec cette gestion des masques, qui a été pour l'État complètement de calamiteux, c'est qu'on a vu sur le terrain que les maires, ils se débrouillaient. Ils se débrouillaient pour acheter des masques. Quand ils avaient de l'argent, parce qu'ils étaient bien gérés, ils les commandaient en Chine, ils payaient tout de suite. Tandis que l'État, quand il commande des masques à la Chine, vous savez pourquoi ça n'arrive pas? C'est parce que la France paye en mandat administratif, c'est-à-dire qu'on paye la Chine à 3 mois de délai. Donc, évidemment, les pays, dans une période de concurrence formidable, les pays qui arrivent avec des valises, avec plein de dollars, comme ça, mais ils passent avant, vous voyez. Donc, les maires, ils ont eu, les présidents de région, ils ont eu des masques. Bon, et les maires, ils savent se débrouiller tout seuls. Vous voyez, ils font distribuer, ils ont même sollicité des laboratoires pour les tests, et ils font fabriquer du gel hydroalcoolique. Parce que la mairie, c'est la grande école de la politique, on connaît son monde, on sait quelles sont, où sont les pauvretés, comment on peut les aider. Donc moi je dis que j'ai toujours dit que le maire c'est le couteau suisse de la démocratie. Et ben là, pour une fois, l'État reconnaît qu'il a besoin d'eux, qu'il peut pas faire sans eux. Voilà.
Adeline Azan, vous avez été maire, vous suivez, vous avez été maire de Reims, qui est une très grande ville de plus de 100 000 habitants. Vous avez donc cette expérience-là. Quand vous voyez se développer la nouvelle phase que on appelle à tort des confinements, mais d'un confinement allégé, vous pensez que c'est une bonne chose de laisser de l'autonomie aux maires?
Oui, je pense que, comme vient de le dire Catherine Ney, il est évident que ce sont les maires qui sont au plus proche du terrain, qui connaissent leur terrain, qui connaissent les locaux, qui savent comment fonctionnent les écoles, qui savent la grandeur, l'importance des marchés, qui peuvent savoir justement ce qui est possible ou pas possible. En revanche, je crois que le vrai débat, c'est est-ce qu'il faut augmenter le pouvoir de police des maires. Et il y a eu un débat intéressant après l'arrêté pris par le maire de Sceaux d'imposer le port obligatoire des masques, et ce qui a été d'ailleurs refusé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 avril, qui a dit, et ça je suis assez d'accord,
sur plainte d'une association des droits de l'homme.
Oui, bien
oui,
sûr,
ce
oui.
qui n'est pas forcément une. Oui, c'est pas. Bon, oui, bah, oui, c'est oui. La Ligue des droits de l'homme, c'est quand même une grande association qui a plus de 100 ans et qui est tout à fait respectable. Donc, c'est pas parce que c'est la Ligue des droits de l'homme que ça. Ça
non, non,
moi,
mais
ça
que
me
va-t-elle
gêne,
dire maintenant où le masque sera obligatoire? Voilà.
Bah, la décision du Conseil d'État.
Dans les rues, non. Les masques sera obligatoire dans les transports publics. Rien n'a dit, personne n'a dit qu'il serait obligatoire dans les rues. Alors, non, ce que je voulais dire par
attendez,
là.
Attendez, une seconde, juste sur ce point, une seconde. Le Conseil d'État avait annulé en disant que le maire ne peut imposer le port du masque obligatoire que si des circonstances particulières le justifient.
Oui.
Là, nous avons à Paris, nous avons à Bordeaux, nous avons à Nice, nous avons ailleurs encore des maires qui veulent imposer le port du masque, y compris dans la rue, dans l'espace public. Ça finira au Conseil d'État qui, selon qu'il considère qu'il y a ou pas des circonstances particulières, annulera ou n'annulera pas. C'est ça la réalité.
Mais ce que je voulais dire, c'est que cette décision me semble raisonnable, c'est-à-dire que a priori les maires ne peuvent pas avoir des pouvoirs de police plus importants que ce que décide l'État, sauf raison impérieuse liée aux circonstances locales que le maire décèle dans sa ville. À ce moment-là, il peut, d'après la décision du Conseil d'État, et moi j'en partage le contenu, il peut prendre des mesures supplémentaires. Mais le problème, je crois, dans ce débat, c'est que au fond, les maires, ils l'ont dit, et à mon avis ils ont tout à fait raison, ils n'ont pas du tout été consultés au début de la crise, au moment de la prise de décision du confinement, comment ça allait pouvoir se passer. Les associations d'élus n'ont pas du tout été consultées. Il semble que le gouvernement, enfin les pouvoirs publics en général, le président de la République et le gouvernement, commencent à s'apercevoir que justement les élus ont un rôle extrêmement important à jouer, que le couple maire-préfet, il est peut-être justement le plus à même de savoir comment gérer les choses. Et là, on s'aperçoit que le gouvernement a consulté, reçoit les associations d'élus, et c'est tant mieux. Mais je trouve que cette prise de conscience de l'importance de la vie des élus a été tardive.
D'accord. Donc tout le monde est d'accord, là, il n'y a pas de débat entre vous sur ce point, Catherine Ney et Adeline Hazan?
Non, tardive, je vais vous dire, s'il fallait consulter tout le monde quand après on disait ils ont tardé pour le déconfinement, pour le confinement, à partir du moment où tous les autres pays le faisaient, il fallait agir tout de suite, confiner pour protéger
les
Français.
Oui, ça les empêchait pas. Il y a 3 ou 4 grandes associations d'élus, hein. Il n'y en a pas 150, il y en a 3 ou 4.
Oui, mais est-ce qu'elles ont protesté? Non, elles ont approuvé.
Le président de la République
elles
a été en visioconférence
pendant 4 heures. Elles ont protesté sur le fait de ne pas avoir été consultées.
Oui,
elles ont protesté
approuvé.
Sur le fait de ne pas avoir été consultées. À mon sens, elles ont eu raison.
Mais pour approuver aussitôt. En deux parties. Elles ont
Oui, mais on est dans une démocratie. Donc on peut approuver quelque chose et regretter de ne pas avoir été consulté auparavant.
J'aime bien quand Adeline Hazan critique... Quand Adeline Hazan critique Emmanuel Macron, voilà Catherine Ney qui le défend, c'est assez amusant à souligner. Mais quand même, le fond de l'affaire, c'est que dans cette histoire, il y a le pouvoir politique se traîne depuis le début comme un très 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 mauvais sparadrap du capitaine Haddock qu'il n'arrive pas à enlever. L'affaire des masques, parce qu'au début, il n'a pas dit la vérité sur les masques, il n'a pas donné les vraies raisons pour lesquelles il était contre la distribution de masques. Et du coup, quel que soit le sujet, dès qu'il y a le mot masque, patatras, c'est le pouvoir politique est en difficulté. Et comme par hasard, sur cette histoire avec les maires, c'est à nouveau sur les masques que ça rebondit. Vous êtes d'accord avec ça, Catherine ?
Oui, mais ça me...
Oui. Mais ça a été géré de manière calamiteuse. Je me demande pourquoi on n'a pas dit tout de suite qu'on n'avait pas les masques. N'oubliez pas qu'en janvier, la France, avec 9 pays européens, ont envoyé des masques en Chine. 53 millions de tonnes de matériel pour aider les Chinois, ces pauvres Chinois qui manquaient de matériel et qui maintenant nous inondent avec leurs produits. Enfin là, je trouve qu'il y a quelque chose, vous voyez, où on s'est fait avoir. Mais c'est vrai que, alors que, vraiment, et en 2017, le rapport d'Arnaud Danjean avait dit au président, attention, une grande pandémie menace, qui prolongeait le livre blanc de la Défense, qui en 2013 disait attention, il y a une... Oui. Bon, ben on ne sait pas, on aurait pu commencer à s'approvisionner en masse, Madame Buzyn aurait pu commencer
Comme je viens de critiquer fortement, pour être honnête jusqu'au bout, ce n'est pas faux non plus quand ils disent que le directeur général de l'OMS expliquait que ce n'était pas nécessaire les masques pour tout le monde, et qu'un certain nombre de médecins, et des plus éminents, disaient la même chose. Donc l'erreur, elle est collective, elle n'est pas que du pouvoir politique. Son erreur, c'est d'avoir insisté trop sur le mot inutile, même si à l'époque, c'est ce que lui disaient pas mal d'experts.
Oui, mais tout le monde a dit une chose et son contraire. Enfin, je veux dire, quand on fera la somme de ce qu'on peut dire, les politiques conseillées par des grands patrons, ou je sais pas, je veux dire, tout le monde a eu tort. Et là, maintenant, alors que, je vais vous dire, il y a eu un rapport parlementaire en 2005 sur les pandémies, et s'il y avait un virus qui pouvait atteindre les poumons, le premier remède, c'était le masque. C'était le masque qui protège. Et d'ailleurs, c'est si vrai que en Chine, dès qu'il y a une épidémie, évidemment pas de virus, mais moins grave, tout le monde met un masque pour se protéger de la grippe. Bon, et c'est comme ça qu'on se protège. Voilà. Donc, les masques, ça sert à quelque chose.
Oui, c'est vrai. Mais ces 10 dernières années, on n'a entendu personne hurler, il nous faut des masques.
Mais parce que c'est pas culturel. Porter des masques. C'est culturel.
Il y a au moins un point sur lequel quelqu'un n'a pas dit tout et son contraire, mais toujours la même chose. C'est sur le problème des prisons. Cette personne, c'est notre invité, Aldi Nazan. On y vient dans une minute.
Adeline Nazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté, votre invité ce matin, Olivier Duhamel et Catherine Ney dans Mediapolis.
Alors, il y a 3 semaines, ça paraît déjà si lointain, l'inquiétude était encore très grande sur ce qui pouvait se passer dans les prisons. Écoutez ce son de l'agence Combini du mercredi 8 avril, c'est François Bess, coordinateur du pôle enquête à l'Observatoire international des prisons, qui alertait.
Même si on leur a mis un crédit pour qu'ils aient le téléphone gratuit en ce moment, il y a des tensions parce que tout le monde se bouscule autour des téléphones, sachant qu'en plus, on a eu des plaintes de plusieurs prisons où les téléphones ne fonctionnent pas. Pour améliorer les choses, ce qui a été démarré par le ministère de la Justice, c'est-à-dire de favoriser les sorties, mais il en faudrait beaucoup plus pour au moins assurer l'encellulement individuel.
Aldi Nazan, vous avez alerté dès le début. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été entendu ?
Oui, globalement oui. Ce que je trouve, c'est que les mesures prises par la garde des Sceaux ont été trop tardives. Le 17 mars, le jour du confinement, elle indiquait, alors que nous étions plusieurs à l'alerter sur la nécessité de désengorger les prisons, elle a indiqué qu'elle n'était pas sur une ligne de faire sortir un certain nombre de détenus. Les magistrats, eux, notamment les juges d'application des peines, immédiatement, dès cette date-là et même quelques jours auparavant, ont commencé à faire sortir un peu plus vite les détenus. Et puis ensuite, la garde des Sceaux a pris un certain nombre d'ordonnances en demandant donc au procureur de solliciter que les détenus à moins de 2 mois de leur peine puissent être libérés. Cela a été fait et globalement, on est maintenant à un taux d'occupation de moins de 11 500 détenus. Je précise qu'il y avait au mois de mars 71 000 détenus pour 55 000 places utilisables. Donc un taux de surpopulation absolument effrayant.
Vous avez dit, j'ai pas compris le chiffre, passez par 11 500.
71 000 détenus pour pour un nombre de places utilisables d'environ 55 000. D'accord. Donc une suroccupation effrayante dans les maisons d'arrêt avec parfois des taux d'occupation de 190% avec 3 détenus ou 4 détenus dans des cellules de 9 mètres carrés avec des matelas par terre.
On était dans une situation...
Donc, on était dans une situation telle que la Cour européenne des droits de l'homme, le 30 janvier, a condamné la France. Alors, heureusement, ça n'est plus le cas. À mon sens, c'est allé trop lentement, et la garde des Sceaux aurait pu, comme dans beaucoup d'autres pays européens, d'ailleurs, je pourrais y revenir dans un instant, prendre des mesures plus larges. Moi, j'ai proposé depuis le début de cette crise qu'on élargisse des détenus qui seraient à moins de 6 mois de leur fin de peine. Bon, petit à petit, on a quand même réussi à désengorger les prisons, mais pas suffisamment, parce qu'il y a encore, au jour où on se parle, il y a encore des maisons d'arrêt qui subissent un taux d'occupation de 120, 130, 140%.
Donc, oui, mais Adilazan, globalement...
En tout cas, la crainte qu'il y ait une infection par le Covid des prisons n'a pas eu lieu, parce qu'il n'y a pas eu...
Absolument.
Il y a eu quelques cas.
Absolument.
Les prisons ont été préservées de la maladie.
Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même, Adilazan, du point de vue politique, de la difficulté pour ce pouvoir? C'est pas que je le défends, j'essaie d'analyser les choses complètement. 12 000 personnes, quasiment 12 000 prisonniers ont donc été libérés. Quasiment 12 000 prisonniers. Alors que c'est pas seulement l'extrême droite et Marine Le Pen qui hurlaient contre ce fait de libérer des prisonniers, mais c'est même la droite classique, la droite parlementaire, Bruno Retailleau, qui faisait les mêmes critiques que Marine Le Pen. Et malgré ça, ils ont quand même tenu bon.
Alors oui, mais simplement, il faut préciser quelque chose d'extrêmement important. Ça n'est pas 12 000 détenus qui ont été libérés. C'est environ 5 000-6 000 détenus qui ont été libérés avant leur fin de peine.
Oui,
et les 6 000 restants qui sont du coup en diminution, c'est une conséquence du fait que la justice fonctionne au ralenti.
D'accord.
Et ça, c'est
12 000
important
prisonniers
que tout
de
le
moins.
Monde le comprenne.
Et aussi certains
c'est
qui ont été libérés avant
de
la fin
de moins. Et...
Et aussi certains qui ont été libérés
absolument.
De façon anticipée.
Bien sûr, à peu près 5 ou 6 000, et ça c'est une très bonne chose. Et maintenant, donc ça, moi je le salue. Je salue aussi le fait qu'il n'y a, avec des guillemets bien sûr, que 112 détenus au total qui ont été atteints du Covid, qu'on craignait que ça soit plus, et puis que globalement, malgré la suspension des parloirs familiaux, il n'y a pas eu d'émeute. En
D'accord.
revanche, ce que j'ai critiqué, et que je critique toujours, c'est que les mesures compensatoires, justement, à cette suppression des parloirs ont été là aussi trop restreintes. J'ai demandé depuis le début à la garde des Sceaux qu'elle rende le téléphone gratuit. Ça me semble une évidence. C'est la seule soupape que peuvent avoir les détenus pour rester en contact avec leurs proches. Alors maintenant, ce qui est très important...
Pardonnez-moi. Oui. Mais il faut qu'on évoque un autre sujet parce que l'heure tourne et on est...
Alors juste une phrase pour dire que maintenant ce qui est très important, et moi je vais m'en entretenir et saisir la garde des Sceaux à ce sujet dans les jours qui viennent, c'est attention, faisons en sorte que cette forme de régulation carcérale que moi j'appelle de mes voeux depuis 6 ans, eh bien elle s'est faite à marche forcée, elle s'est faite par la force des choses. Attention à ce que justement, dès lors que le confinement sera terminé ou allégé comme vous l'avez dit à juste titre, cette inflation carcérale ne recommence pas.
Alors il y a un autre sujet important sur lequel il me semble vous n'avez pas été aussi bien entendu, qui est celui des migrants. Et je voudrais juste
Absolument.
Qu'on puisse l'évoquer parce que l'heure avance, l'émission va bientôt se terminer. On y vient dans une minute.
Médiapolis continue à distance, certes, mais avec toujours et comme chaque samedi, Olivier Duhamel et Catherine Ney, jusqu'à 11h. Ils sont en ligne avec Adilazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Adilazan, autorité indépendante, mais qui vient de la gauche, est soutenue par Jacques Toubon, défenseur des droits, autre autorité indépendante, mais qui vient de la droite. Écoutez Jacques Toubon.
Pourquoi s'obstiner à faire fonctionner les centres de rétention, c'est-à-dire à retenir, puisque c'est le mot, des personnes qui sont censées être expulsées alors qu'il n'y a plus d'expulsion. Nous disons, fermons ces centres de rétention qui n'ont plus aucun sens, ni juridiquement, et qui présentent des risques sanitaires, bien entendu, pour aussi les policiers qui sont là, ou les agents qui sont là en train de faire fonctionner ces centres, ou pour les représentants des associations, ou à tout le moins, ne continuons pas à les alimenter.
C'était donc Jacques Toubon, défenseur des droits, jeudi 23 avril à la matinale de RFI. Et vous avez signé Adilazan avec ce même Jacques Toubon, avec Jean-Marie Burgu-Buru qui préside la Commission nationale consultative des droits de l'homme, un appel à fermer les centres de rétention des migrants. Pourquoi demandez-vous cela et pourquoi n'êtes-vous pas écouté?
Alors, pour deux choses, effectivement, nous avons signé cela. J'ai réactivé le ministre de l'Intérieur il y a une dizaine de jours parce que je me suis déplacée avec deux contrôleurs de mon équipe au centre de rétention de Vincennes et deux jours plus tard au centre de rétention du Ménil-Amelot, où dans chacun de ces centres, il y avait encore environ 50 ou 60 retenus. Et ce que nous disons, c'est que, un, ces rétentions n'ont plus de base légale. Pourquoi ? On garde quelqu'un en rétention, on place quelqu'un en rétention. D'ailleurs, je précise que ça n'est pas un délit, hein, ce sont juste des personnes qui sont en situation irrégulière mais qui ne sont pas des délinquants. Ça, c'est l'aspect délit a été supprimé il y a une quinzaine d'années. On les place parce que on va irrégulière. Les reconduire à la frontière.
Oui, en irrégulière. Situation irrégulière, oui, Catherine a raison.
Irrégulière, bien sûr. Oui, irrégulière, c'est ce que j'ai dit, mais ça n'est pas un délit, c'est ce que je veux dire, ça n'est pas des délinquants. Donc, on les place en centre
pas
de
encore.
Rétention parce que... Oui, bon, je vous laisse l'appréciation de dire cela. On les place en centre de rétention. On les place en centre de rétention parce qu'on va les expulser. Or, actuellement, ils ne peuvent pas être expulsés. Il n'y a quasiment aucun retour à l'étranger pour la raison toute simple que les lignes aériennes, les vols sont bloqués, les lignes aériennes ne fonctionnent pas. Donc, moi, je dis, et Jacques Toubon était d'accord avec cela et Jean-Marie Burgubure aussi, je dis que la rétention de ces personnes manque de base légale. Je suis allée dans ces centres de rétention où les conditions d'hygiène sont absolument déplorables. Les douches sont dans un état épouvantable, les toilettes sont bouchées et j'en passe. Les gestes barrières, je vous en parle même pas, impossible de respecter. Le délai maintenant maximum pour garder ces personnes, c'est 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. J'ai vu plusieurs retenues qui étaient là depuis 2 mois, avec aucun espoir de toute façon d'être renvoyées. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces personnes, on va les maintenir jusqu'à 3 mois et on va les libérer puisqu'on peut pas les faire partir. Donc ça n'a aucun sens et ça met en cause et leur santé bien sûr et la santé des agents qui s'occupent d'eux, qui eux vont et viennent, rentrent chez eux, etc. Donc peuvent être aussi porteurs du virus. Il y a eu quand même une dizaine de cas de Covid plus au centre de rétention de Vincennes. Justement, ceux-là ont été exfiltrés, si je puis dire, mais c'est bien cela qu'il faut faire, c'est ne plus en prononcer de mise en rétention. Ça n'a aucun sens puisque de toute façon, ils ne partiront pas. On les met en danger, on met en danger les agents, tout cela pour rien.
C'est le Conseil d'État, du coup, qui pourrait un jour vous donner raison. C'est ça votre dernière piste ?
Bien sûr, pour le moment, le Conseil d'État a été saisi là-dessus, mais ne nous a pas donné raison. Le tribunal administratif, quand même, de Paris, lui, a ordonné, quand il a vu qu'il y avait des retenues atteintes, il a ordonné qu'on ne place plus pendant 15 jours deux personnes retenues au centre de Vincennes. Donc, ça prouve bien que la justice administrative est consciente du problème, mais en même temps qu'elle ne veut pas aller jusqu'au bout, elle reste au milieu du gué.
Très bien. Eh bien, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, en chanson, il faut que je vous dise quelques mots du sujet que nous a trouvé Alice Baudry, directrice de la communication de l'Institut Montaigne, qui surveille les médias internationaux pour nous. Elle a repéré un article du magazine Wired, en date de ce jeudi, à propos de la croisière qui avait captivé le monde entier, à propos de ce navire de croisière qui accostait au Japon à Yokohama en février dernier. À l'arrivée, pas moyen de faire sortir les 3711 personnes à bord, à cause de quoi ? À cause d'un seul cas. Le 5 février, soit bien avant que l'OMS ne publie ses recommandations, à part à Wuhan, on ne parle pas encore de solution de quarantaine. Le navire en question, le Diamond Princess, passe en Chine, au Vietnam, à Taïwan, et le cauchemar commence vers le début du voyage quand on entend parler pour la première fois du coronavirus à Wuhan. Quelques jours plus tard, le vice-président des opérations maritimes du navire va réveiller le capitaine pour lui dire qu'un passager, de 80 ans qui avait quitté le navire à Hong Kong 8 jours plus tôt, avait depuis été testé positif. Le navire doit rentrer au Japon avant que les passagers et l'équipage puissent être testés. Les agents de santé japonais sont montés à bord. Ils ont passé une nuit et une journée entière à marcher de cabine en cabine en demandant aux gens s'ils avaient de la fièvre ou de la toux. Une dizaine de résultats se sont avérés positifs. Que fallait-il faire des 2666 autres passagers et 1045 membres de l'équipage ? Eh bien, on les a mis en quarantaine et on a fabriqué une prison, confinement, représentant une fatalité, puisque avec 60% des croisiéristes qui avaient plus de 60 ans. À la fin, 531 passagers ont été testés positifs. Voilà comment s'est passée une des premières catastrophes de ce qu'on appelle les clusters, les foyers de ce satané virus. Allez, pour terminer, écoutez pour terminer la chanson comme d'habitude. Est une chanson que je voudrais dédier à Henri Weber, qui était dans les années de mai 68 un leader révolutionnaire, qui ensuite est devenu social-démocrate, mais qui était surtout un esprit très ouvert, très éclairé, plein d'humour. Et qui
un homme merveilleux, voilà, qui dégageait
un homme
beaucoup
merveilleux,
de bonté,
dit Catherine Ney.
Beaucoup de bonté, pas de sectarisme.
Voilà, et ouais. Il est mort du coronavirus.
Et je pense à Fabienne, sa femme, ses enfants.
Je lui dédie la chanson... Vous savez, cette fameuse chanson maintenant, Bella Ciao, l'hymne révolutionnaire italien, qu'on entend aussi dans la série qui a beaucoup de succès, La Casa de Papel. Mais là, je vous ai choisi une version en espagnol, parce qu'il était aussi très tourné vers l'Amérique latine, même s'il a beaucoup agi aussi en Italie, Henri Weber. Et c'est Diego Moreno qui a traduit en espagnol cette chanson, Bella Ciao, et que donc maintenant nous écoutons en hommage à Henri Weber. C'était donc la chanson Bella Ciao, chantée cette fois-ci en espagnol par Diego Moreno. Je voudrais remercier évidemment notre invité Adeline Hazan, bien entendu Catherine Ney qui fait cette émission avec moi, notre réalisateur Jean-Luc Arblad, Capucine Patouillet qui l'a préparé, Julie Holman qui nous a accompagnés et les chefs d'antenne grâce auxquels nous pouvons faire cela dans les conditions d'être en ligne et à distance, Michel Le Hénaff et Fabien Duchesne. Merci à tous, vous pouvez faire écouter l'émission en podcast sur Europe 1.fr et venez nous retrouver samedi prochain.